9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
On a un peu oublié ce qu'a été l'incroyable gloire de Bourvil dans les années 1960. Sa présence à la télévision notamment était à chaque fois un événement. On lui posait mille questions sur sa vie et notamment sur son enfance, une enfance qui paraissait loin à l'époque et qui pourtant était très présente encore à son esprit. Oh, je suis né à un âge si modeste que ça ne vaut peut-être pas la peine de le préciser, disait-il. Et alors, il avait cette façon de dire les choses tellement gentille, tellement naïve, qu'évidemment on riait presque naturellement avant même quand il disait des choses qui n'étaient pas forcément très drôles. Je ne savais pas encore que je m'appellerais Bourvil, ni d'ailleurs André Rimbourg. Dans les mains de la sage-femme, je pesais 8 livres, à peine le poids d'un accordéon, dit-il. Et c'est vrai que l'accordéon, nous le retrouverons dans le cours de cette émission, a un peu accompagné la vie de ce saltimbanque dans l'âme. Je suis né dans une ferme, dit-il, en face d'une meule de foin. Et il m'en est resté quelque chose, oui. Il est resté quelque chose d'infiniment rural dans ce qu'il y a là de plus noble et de plus ancestral chez cet acteur qui était un petit peu et qui a joué beaucoup sur cette fibre et sur cette corde qui était un peu le paysan à l'écran. Bien avant de se faire appeler Bourvil, donc, il s'appelle André Robert Rimbourg. Il était né le 27 juillet 1917. À Prêteau-Vicmar. Prêteau-Vicmar, c'est dans ce qu'on appelait à l'époque la Seine inférieure. C'est que par la suite, on s'est mis à parler de Seine maritime. C'était considéré comme plus présentable. Son père et sa mère sont cultivateurs, évidemment. Deuxième enfant de cette petite famille, André, son grand frère qui s'appelle René, ne va pas longtemps connaître son père, enfin ni l'un ni l'autre, hein, bien sûr. Le père va mourir de la grippe espagnole et il meurt quelques semaines seulement après la mort de l'armistice, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas encore été démobilisé, ce qui veut dire qu'André, ayant à ce moment-là 1 an à peine, il n'a pas connu son père. Et la mère, elle s'appelle Eugénie, va se remarier très vite avec un homme qui devient pour André et pour René un véritable père. C'est Joseph Ménard. Et toute sa vie, André va garder un grand attachement pour cet homme qui avait su accepter les enfants d'Eugénie comme s'ils avaient été ses propres enfants. D'ailleurs, il ne sera pas innocent dans la carrière d'André, hein, ce Joseph Ménard. Bon, la famille vit dans un village qui s'appelle Bourvil. Bien sûr, Bourvil, mais alors Bourvil I2LE, hein, c'est le village de naissance d'Eugénie. Lors de son second mariage avec Joseph Ménard, elle va redevenir mère de famille, elle va donner naissance de nouveau à 3 enfants. Vie rude dans ce qu'a pu être la campagne normande des années 1920, vous l'imaginez. Mais dans ce climat de rudesse et d'une forme d'austérité, on ne peut pas dire que ce soit une jeunesse malheureuse, c'est même une enfance heureuse que celle d'André. Ses parents toujours sauront préserver leurs 5 enfants des malheurs qui peuvent être ceux qu'on rencontre dans cette période d'entre-deux-guerres difficile. Hein. André est un enfant gay qui pousse tout le temps la chansonnette. On lui reconnaît aussi un certain talent pour faire rire ses camarades. Déjà, il a l'air toujours tellement innocent, comme ça, un peu en suspens. Ça fait rire. Il y a des gens, on ne sait même pas pourquoi. Je vous dis, leur présence fait rire. Est-ce qu'il en a conscience, André? Oui, probablement. Il a probablement compris très vite le parti qu'il pouvait tirer de cette présence par essence hilarante.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Joseph Ménard dira à son fils, si je puis dire, hein, son fils adoptif, de travailler, de trouver un métier qui lui permette de vivre. Bien sûr qu'il a des passions, mais il faut aussi, vous savez, dans toutes les familles, hein, c'est comme ça, il faut assurer. Bon. En 1931, André obtient son certificat d'études avec la mention « Très bien ». On le destine à devenir agriculteur. Lui entame des études d'instituteur à l'école primaire supérieure pour garçons de Doudeville. Mais c'est un pensionnat qui n'est pas du tout agréable, qui est très dur. André Rimbourg a du mal à supporter la discipline très stricte qu'on fait régner dans cet internat, et 2 ans plus tard, il décide de retourner dans sa famille, donc à Bourvil. Et c'est à 17 ans qu'il va, dans une petite bourgade que tout près de Bourville, devenir mitron. Hein. Il se lance dans la cuisine, rythme de vie difficile, mais encore une fois, il est toujours gai, il voit toujours tout en rose, il chante tout en gardant les pieds sur terre. Hein. Il aime chanter, il chante à la messe, il l'a chanté très tôt comme enfant de chœur. Il anime aussi les fêtes familiales, les banquets, les kermesses où il reprend des chansons de Fernandel en faisant le pitre. Et petit à petit, il maîtrise tellement bien le répertoire drôle de Fernandel. Il faut dire que les chansons de Fernandel étaient désopilantes, qu'on l'appelle le Fernandel normand. Et c'est comme ça qu'il intègre une fanfare, la fanfare de Fontaine-le-Dain. Alors il joue un peu tout, il joue de l'harmonica, de l'accordéon, du cornet à piston, enfin vous voyez, c'est un fantaisiste de fanfare, c'est exactement ça, le jeune André Rimbourg, qui va faire là une grande rencontre, celle qui va devenir la femme de sa vie, hein, bien sûr, Jeanne. Alors, c'est lui qui nous raconte ça, si vous le voulez bien, je ne vais pas me donner le ridicule de l'imiter, mais imaginez tout le charme de naïveté qui accompagne les paroles de Bourville. Mon grand coup de foudre s'est produit au bal de la fanfare dans le flonflon des valses lentes, dira-t-il. Malheureusement, ma spécialité à moi, c'était plutôt la musique que la danse. Jeanne dut s'en apercevoir tandis que je l'entraînais dans un one-step semé d'embûches. Heureusement qu'elle savait le musicien virtuose que j'étais. Ça sauvait mon prestige et tout de même, je me suis arrangé pour que nos rencontres suivantes aient lieu ailleurs qu'au bal. Bientôt, j'allais voir Jeanne à la petite ferme que sa mère et ses six sœurs exploitaient. Je faisais ma cour de façon tellement discrète que ça devait se voir comme mon nez au milieu de ma figure. N'empêche que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire « Il serait temps de te faire une situation si tu veux demander la main de la demoiselle ». Et là, ça, je le voulais demander la main de cette demoiselle. J'y pensais, tandis que Jeanne et moi, nous nous promenions le dimanche et que nous faisions des projets à en attraper la migraine. Elle a 18 ans, Jeanne. Elle a exactement le même âge qu'André. Hein, et ça va être l'unique amour de Bourville. 2 ans plus tard, on est là en 1937. André est volontaire pour le service militaire, ce qui lui permet de choisir son arme. Il va être incorporé au 24e régiment d'infanterie à Paris. Et qu'est-ce qu'il fait dans son service militaire ? Ben, il reste dans la fanfare, hein. Il est cornettiste dans la fanfare du régiment. Et alors qu'il se rend pour son incorporation à Paris, il y a un petit bouleversement dans sa vie, puisque à Rouen, en passant par Rouen, il va voir sur les planches du cirque d'hiver de Rouen de l'époque, hein, celui qui est l'idole de sa vie, celui dont il chante toutes les chansons, Fernandel en personne. « Oh, c'est un souvenir inoubliable, dira-t-il. Mon cœur battait, j'étais au bord des larmes, ce métier me bouleversait. Il aura été depuis toujours un grand amour. » Bourville en est certain. Dans 2 ans, c'est-à-dire dès qu'il va avoir fini son service, il pourra se consacrer entièrement à sa passion des planches.
Thank you.
Le galop des comédiens de Dmitri Kabalevski par l'Orchestre de Philadelphie sous la direction d'Eugène Ormandy.
Vous écoutez Radio Classique.
Donc, on est toujours au service militaire. Là, en 1938, ses camarades de chambrée lancent un défi à André, s'inscrire à un radio-crochet, le grand radio-crochet de Radio Paris à l'époque, qui s'appelle Les Fiancés de Beer. Oui, on fait de la publicité hein, à l'époque à l'antenne, sous le pseudonyme d'Andrel. Vous voyez à quel point il reste toujours fidèle à cette image de Fernandel. Hein. Il va interpréter la chanson Ignace et il gagne le prix Beer, 300 francs qu'il emploie immédiatement pour s'acheter un accordéon. Et quand la guerre s'invite sur la scène européenne, on est en 39 bien sûr, André Rimbourg termine tout juste son service militaire. Ça fait 2 ans qu'il était dans l'armée. Ben, il va opérer, si je puis dire, en tant que brancardier, il écrira, Bourville, si je puis ainsi l'appeler. C'est ainsi qu'en 1939, et par personne interposée, Hitler et moi entrâmes en conflit armé. Oui, on voit André Rimbourg évacuer les blessés à Dun, à Montmédy, vous savez, près de la frontière belge, à Rethel, puis à Arzac, dans les Basses-Pyrénées. On comprend quel a été le mouvement général des troupes. Dans leur biographie de Bourville, Christian Plume et Xavier Pasquini nous disent, je les cite, dans la tragédie qui bouleversait la France, les bonnes fées veillaient encore sur le petit Mitron normand. Car à Arzac se trouvait replié un autre soldat qui allait terriblement influencer son destin. Ce soldat, ouvrier imprimeur dans le civil, avait lui aussi le boyau artistique et comme André Rimbourg, il jouait de l'accordéon en amateur. Mais aussi en virtuose, puisqu'il signera quelques années plus tard d'excellentes chansons comme « À Joinville-le-Pont » et surtout la plupart des grands succès du futur Bourville comme « Les crayons » ou « La tactique du gendarme ». Il s'appelait Étienne Lorrain. Pour le moment, il essayait de survivre comme les autres et cherchait surtout à redonner le moral aux débris de la pauvre armée française. Il trouva aussitôt un allié, un partenaire dans cette tâche, en la personne du soldat Rimbourg, qui lui non plus n'avait pas perdu le moral dans la tourmente. Lorrain organisait des soirées dites de music hall, au cours desquelles les soldats repliés qui se sentaient un petit talent d'artiste venaient se produire. Faut imaginer, on est dans le contexte hein, de ce grand effondrement de la France, tous les repères sont en train de basculer. Je cite de nouveau Christian Plume et Xavier Pasquini. Naturellement, le soldat Rimbourg fut l'un des premiers arrivés. Aussitôt, ce fut le coup de foudre entre Étienne Lorrain et lui. Bien conseillé par Lorrain qui avait une assurance de professionnel, le soldat Rimbourg devint rapidement le célèbre comique troupier Andrel. Se produisant tous les soirs, il met au point son personnage de paysan naïf, bébête, s'essayant même dans des sketchs de son cru. Le moment est venu de redevenir civil, en pleine occupation. Andrel n'a nullement l'intention de redevenir mitron. Il sent qu'il ne peut réussir qu'à Paris, mais cette fois, il sait qu'il ne sera pas seul. Il y a désormais un ami, Étienne Lorrain, qui lui aussi veut faire l'artiste. Et à Paris, ben c'est l'époque des petits métiers, hein, plombier, garçon de course pendant cette période de l'occupation. Il continue à suivre des cours de trompette au conservatoire de Paris. Il court les radio-crochets, les cabarets, les musicals. On lui demande de ne plus porter ce nom d'Andrel, parce que ça fait de l'ombre à Fernandel. Hein. Et comme un de ses cousins, qui s'appelle Lucien Rimbourg, essaie lui aussi de se faire un nom, il se dit qu'il ne va pas pouvoir s'appeler André Rimbourg. Puis André Rimbourg, c'est pas dans l'esprit de ce qu'il... Non, il lui faut quelque chose de plus léger, de plus charmant, eh ben il va prendre le nom de son village normand, Bourville, tout simplement, en enlevant le dernier L et le dernier E. En 1943, il va épouser son grand amour, Jeanne, en Normandie, bien sûr, vous imaginez le genre de repas de mariage de l'occupation. Hein. Et puis, ils viennent s'installer à Paris, à Vincennes exactement, juste à côté de Paris, dans l'Est parisien. Et c'est au sortir de la guerre que Bourville va faire parler de lui. En 45, il y a cette chanson « Les crayons » qui raconte les malheurs d'une jeune marchande de crayons qui se fait voler les produits de sa vente. La carrière de Bourville est lancée. Il va interpréter sa chanson la même année dans le film « La ferme du pendu », film de Jean Dréville. Et puis, ça y est, de toute façon, il a été remarqué parce que son visage est facile à reconnaître. sa façon de jouer, cette voix comme ça, un peu gaffeuse, ce genre un peu benêt, tout ça plaît énormément. On a besoin dans l'après-guerre de se changer les idées, on a besoin de gens simples et purs. Il multiplie les apparitions. Voici ce que... Alors on est en 48, hein, il faut imaginer avec la voix de Bourvil, on est à la radio, voilà le genre de sketch. Hein. Il dit « Mesdames, messieurs, ayant remarqué que les gens ne savent plus se tenir en société, j'ai rédigé un petit traité de maintien dont je vais avoir le plaisir de vous lire certains passages. » Ça peut toujours servir, dit-il. Et les gens rient. Mais de toute façon, il vous lirait l'annuaire que vous ririez quand même. Et là, il sort un petit livre de sa page. Alors, j'ouvre au hasard, dit-il. Chapitre 4 de la conversation, comment on doit appeler les personnages titres. À un prince, on dit votre altesse, pas votre altitude. À un ministre, on dit votre excellence, pas votre perfection. À un cardinal, on dit votre éminence, pas votre monticule, etc. etc. Voyez que, bon... Ça vole pas très haut, c'est très naïf, c'est très simple, mais on rit de bon cœur, c'est simple et c'est gentil. Un monsieur qui est abattu par une infortune conjugale, ne dites pas en guise d'encouragement « Allons mon cher, il faut prendre le taureau par les cornes ». Oui, évidemment. Et au mariage d'une jeune fille pas jolie, ne dites jamais à ses parents « Vous êtes enfin arrivé à la casée ». Etc. Ce genre de sketch plaît à un public qui est avide de douceur, disons les choses. N'oubliez pas de quelle période on sort. Il a eu, si je puis dire, la chance, André Rimbourg. Il a eu, Bourvil, la chance d'avoir son âge et de ne pas être compromis du tout, de près ou de loin, dans la Libération. Certes, il a fréquenté les cabarets en pleine occupation, mais on peut rien lui reprocher de grave. Et l'on a envie d'épouser avec lui une espèce de France profonde et rurale qui aura toujours eu une espèce de bonne humeur de fond. Voyez si ce petit livre est instructif, conclut-il pour ce fameux sketch à la radio. Quand vous l'aurez lu, vous pourrez aller dans le grand monde sans crainte de passer pour un goujat. Et le public rit et rit de bon cœur.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus, alors quelle importance le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu.
Le petit bal perdu, Bourvil, bien sûr, sur des paroles de Robert Niel et une musique signée d'une compositrice, Gaby Verlor.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Il est dans son personnage, Bourvil, mais en même temps, il ne l'a jamais quitté. Son personnage, c'est lui, même s'il grossit le trait, bien entendu, il force un petit peu la cadence. Et en même temps, il sera étonnant vers la fin de sa carrière, puisque lui qui fait rire, le bonnet, etc., avec son béret, etc., ben, petit à petit, il va devenir un de nos plus grands comédiens dramatiques. Il touche à tout en attendant. Il est sur les planches, dans des opérettes. C'est le grand genre de l'époque, les opérettes. opérettes. La Route fleurie, bien sûr, en 52, avec Annie Cordy, Georges Guettari. C'est la grande époque du Châtelet, des décors inouïs et des changements de costumes extravagants. Il est aussi sur scène pour jouer au théâtre. Il chante ses compositions, donc à bicyclette, salade de fruits, un clair de lune. Vous avez entendu le petit bal, bien sûr. Bourvilliers fait aussi du cinéma, on compte plus ses apparitions. Hein. Alors, il est maintenant aux côtés de Fernandel. C'est ça qui est extraordinaire pour lui, c'est qu'il joue à côté de son idole, mais aussi avec Jean Poiret, Francis Blanche, Annie Cordy, Françoise Sagan. On pourrait citer toutes les célébrités de l'époque, Juliette Gréco, bien sûr, Belmondo, Bardot, Brasseur, Morgan, Marais, Ventura, Delon. Il n'y a pas un très grand comédien qui n'ait pas joué avec Bourvilliers à l'époque, bien sûr. Le plus célèbre de tous étant Louis de Funès, qui va devenir son partenaire un peu plus tard. On n'en est pas encore tout à fait là. Le film important, où justement il va croiser Louis de Funès, c'est en 56, La traversée de Paris. Et là, Bourvilliers est dans un rôle nettement moins drôle déjà, beaucoup plus en demi-teinte, beaucoup plus grinçant, qui va révéler une nouvelle facette qu'on ne connaissait pas de lui. Il remporte d'ailleurs la coupe Volpi du meilleur acteur à la Mostra de Venise. C'est un film qui va faire connaître surtout Louis de Funès, mais qui a donné à Bourvilliers une autre dimension en quelque sorte. Bon, alors vous connaissez bien sûr les deux très célèbres films où vont jouer les deux comédiens de l'époque, hein, Louis de Funès et Bourvilliers. Le Corneau, bien sûr, en 1965, sous la direction de Gérard Oury. Et deux ans plus tard, toujours sous la direction d'Oury, La Grande Vadrouille, bien sûr. Et là, ça va être une explosion du box-office.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et malgré cette célébrité, car maintenant Bourvilliers, on peut dire, est devenu une des personnalités les plus célèbres du pays, incontestablement, il reste infiniment simple. Il ne prendra jamais la grosse tête, comme on dit, vous savez. Simplicité qui, tout au long de sa vie, l'aura accompagné. Il mène une vie extrêmement sobre et pure, si je puis dire, avec sa femme, Jeanne, bien sûr, et leurs deux fils, Dominique et Philippe. Bourvilliers va lui-même veiller à l'éducation de ses enfants, d'ailleurs, et en dépit d'un agenda que vous pouvez imaginer, hein, avec beaucoup de tournages, beaucoup de tournées de théâtre également et d'opérettes, ses deux fils toujours reconnaîtront l'effort de leur père pour être présent, pour être un bon père, toujours là dans la famille. J'ai une bonne santé, je fais un métier qui me plaît, j'ai deux enfants formidables, une femme qui est une mère extraordinaire. Que voulez-vous de plus, dira-t-il. Et les auditeurs d'Europe numéro 1 à l'époque, on est dans la deuxième partie des années 50, au début des années 60, lorsqu'ils venaient très souvent gentiment faire le gentil pitre sur les ondes, adoraient justement cette grande simplicité, cette espèce de clarté. Tous ses collègues, tous ceux qui l'ont côtoyé de près ou de loin, mettront en avant cette bonté, cette générosité qui n'était pas feinte. Vous avez des personnages qui peuvent paraître extrêmement sympathiques à l'écran et qui dans la vie sont nettement moins sympathiques. Ce n'était pas le cas du tout de Bourvilliers. À la fin des années 60, alors qu'il est vraiment devenu une immense star, il s'apprête à tourner de nouveau avec Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs, sauf qu'il ne va pas pouvoir. On lui a diagnostiqué un cancer. D'ailleurs, si on veut être tout à fait précis, ce n'est pas tout à fait un cancer, c'est une maladie de Kahler. Et il va faire le choix de ne pas en parler. Il ne communique pas du tout sur la question. Le dernier grand tournage, c'est le mur de l'Atlantique, bien sûr, hein, en juin 1970, un tournage rendu extrêmement dur par la maladie. Tout le monde est au courant sur le plateau jusqu'au dernier assistant, mais bien sûr, puisqu'il a choisi de ne pas en parler, eh bien ça reste le tabou absolu. Et le 23 septembre 1970, c'est l'annonce terrible pour le public. Ça a été mais vraiment un choc, une secousse pour la France entière, la mort de Bourvilliers, qui n'avait que 53 ans, vous imaginez ça. On va l'enterrer le plus simplement du monde, exactement comme il avait vécu d'ailleurs dans le cimetière de Montainville. Il aura beaucoup fait rire Bourvilliers, et si vous me passez l'expression, je dirais d'ailleurs qu'il a au moins autant fait sourire que rire. Et puis il a fait chanter, mais chanter intérieurement. D'ailleurs il avait déclaré « Chaque éclat de rire du spectateur me procure la même joie que pour un jeune homme sentimental, le baiser de l'être aimé ». Ben si ça n'est pas une déclaration d'amour au public.
Vous écoutez Radio Classique.
Voilà, c'est Jean-Baptiste Galène qui a fait revivre Bourvil. Merci beaucoup Jean-Baptiste et bonjour mon cher Christian.
Bonjour mon cher Franck. Alors, je suis ravi d'avoir écouté cette émission sur Bourvil. D'abord parce que le personnage était haut en couleur, disparu beaucoup trop tôt.
Et, ah oui, vous rendez compte.
Et d'ailleurs, il n'a pas signalé son cancer des os très très vite, puisqu'il y a eu ce dernier tournage avec le Cercle Rouge, avec Alain Delon notamment. Mais j'ai revu un vieux film de Bourvil, avec une jeune débutante, Brigitte Bardot, en 1952, de mémoire, c'est Le Trou Normand, où il devait, pour un héritage, passer son certificat.
Absolument.
C'était quelque chose d'extraordinaire. Bourvil, au personnage en couleur. Personnage en couleur et musicien, cet après-midi, c'est Camille Saint-Saëns que nous retrouverons grâce à vous à 14h.
Nous serons déjà presque entrés dans le week-end.
En quelque sorte. À lundi.
À lundi, avec joie, oui.
Vous en avez assez de dire non à votre enfant ? J'ai la solution. Dites-lui oui. Oui à tout. Oui, mon amour. Tu peux choisir l'atelier peinture, dessin ou éveil musical. Oui, vas-y. Fais de la mosaïque, de l'aquarelle ou même du modelage. Oui. Et oui, pendant les vacances, c'est l'opération Vive les couleurs chez Cultura. Avec 20 000 ateliers gratuits pour éveiller vos enfants à l'art et à la culture. Inscrivez-vous dès maintenant sur cultura.com. Offre réservée aux membres Cultura Addict, voire conditions en magasin et sur cultura.com. Cultura, la culture avec un grand A.
Vous trouvez que le temps passe vite ? Nous aussi. Alors chez Mazda, nous vous offrons jusqu'à 5 ans d'entretien et 5 ans d'assistance sur nos berlines SUV compact 9 Mazda 3 et CX-30. Et pour toujours plus de sérénité, nous garantissons tous nos modèles 6 ans. Prenez juste le temps de découvrir notre gamme chez votre concessionnaire Mazda le plus proche. Le moment est venu de rouler l'esprit tranquille. Garantie 6 ans limitée à 150 000 km. Offre valable en location longue durée à particulier jusqu'au 30 juin. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
La Fondation Orange fait vibrer la musique et les voix sur tous les territoires. Pour découvrir les actions de la Fondation Orange pour la culture, rendez-vous chaque mardi et jeudi à 14h59 sur Radio Classique.
Depuis plus de 4 siècles, Château Lagrange crée de grands vins et des millésimes remarquables. Une vocation inscrite dans le terroir de ce domaine emblématique de Saint-Julien. Au cœur du Médoc, la propriété vous accueille pour des visites privées, verticales de millésimes à l'aveugle, dégustation à la barrique et la découverte de sa table gastronomique d'exception. Entrez dans le domaine Château Lagrange, troisième grand cru classé depuis 1855. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Françoise, donatrice à la Fondation du patrimoine.
Notre patrimoine est en danger. Nos églises, nos petits théâtres, nos moulins, nos lavoirs disparaissent de nos paysages. Alors pour que nos enfants connaissent ces merveilles, j'ai fait un legs à la Fondation du patrimoine. J'aide ainsi son réseau de bénévoles, partout en France, à sauver cet héritage, témoin de notre histoire.
Contactez la Fondation du patrimoine au 09 80 80 99 98 ou sur fondation-patrimoine.org.
Tous classiques, avec Christian Morin, sur Radio Classique.
Et en vous disant bonjour, nous nous déplaçons en pensée du côté d'Aix-en-Provence, puisque c'est l'ouverture ce soir du festival de Pâques d'Aix-en-Provence, avec Radio Classique à ses côtés depuis de nombreuses années maintenant, et pour cette ouverture, eh bien, il y aura une diffusion en direct d'un concert ce soir au Grand Théâtre de Provence, commenté par Laure Maison, qui sera déjà installée sur place, elle est déjà sur place d'ailleurs depuis hier, et Laure vous donne rendez-vous ce soir avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, qui sera dirigé par Renaud Capuçon avec en soliste Martha Argerich. Alors, avant d'écouter cet orchestre national du Capitole de Toulouse avec l'ouverture de la Princesse Jaune de Camille Saint-Saëns, eh bien, on va retrouver ces deux acolytes musiciens et amis. C'est Renaud Capuçon au violon et Martha Argerich au piano. Ils sont tous les deux réunis ici. C'était en 2022 pour un enregistrement concernant César Franck. C'est le final de la sonate pour violon et piano. Permettez-moi en plus de rajouter une chose, que vous soyez à Aix-en-Provence, ailleurs ou à Paris. Bonne journée encore et merci d'écouter Radio Classique.
Radio Classique.
L'Orchestre national du Capitole de Toulouse, dirigé par Léo Hussin, pour cette ouverture de La Princesse jaune de Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns qui, je vous le rappelle, sera raconté par Franck Ferrand à 14h cet après-midi avec l'écriture de Jérémy Bigori. Alors, je vous le disais, donc cet orchestre, vous l'entendrez ce soir à Aix-en-Provence pour l'ouverture du festival de Pâques, dirigé par Renaud Capuçon avec Martha Argerich en soliste. J'en profite d'ailleurs pour, s'il nous écoute, pour les réglages techniques, pour les enregistrements, pour saluer toutes nos équipes qui sont sur place pour la partie technique qui vous permettra d'avoir une saveur particulière ce soir pour la diffusion du concert commenté par Laure Maison. Avec au programme ce soir, donc, il y a notamment la symphonie numéro 8 de Dvorak, et puis, il n'y a pas que ça, il y a la danse mystique de Charlotte Sohy. On va écouter quelques extraits de cette compositrice dans un triptyque champêtre avec une flûtiste, Mathilde Calderini, qui elle aussi sera à Aix-en-Provence le 17 avril. Champêtre de Charlotte Sohy qui sera au programme ce soir du concert avec Martha Argerich, Renaud Capuçon et l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. C'est joli, ce thème s'appelle Enchantement matinal pour flûte, trio et cordes et harpe. Mathilde Calderini, je vous l'ai dit, sera le 17 avril à 18h au Festival d'Aix-en-Provence. Alors, au programme ce soir, Danse mystique de Charlotte Sohy, Symphonie numéro 8 de Dvorak, mais il y aura aussi, avec le Capitole de Toulouse, dirigé par Renaud Capuçon et Martha au piano, Martha Argerich, il y aura le concerto pour piano numéro 1 de Beethoven. Voici le final du numéro 2, mais avec Martha Argerich. Vous entendrez des applaudissements comme ça ce soir en direct. Martha Argerich interprétait ici le final du concerto pour piano et orchestre numéro 2 de Beethoven, dirigé par Seiji Ozawa. Mais c'est le numéro 1 qu'elle vous proposera ce soir, avec Renaud Capuçon à la tête de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, en direct depuis Aix-en-Provence pour l'ouverture de ce festival formidable. Et ce soir, le commentaire, l'accompagnement du concert sera celui de Laure Maison, qui je fais un petit baiser sur le front si elle nous écoute. Et ne ratez pas ce rendez-vous dès 20h sur Radio Classique.
Retrouvez les carnets de Gauthier Capuçon du lundi au vendredi à 17h sur Radio Classique. Cette émission est disponible en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes de streaming habituelles.
Radio Classique, la radio musicale la plus podcastée de France. Franck Ferrand raconte.
À l'époque où surgit sur la scène de l'histoire ce personnage de Jeanne, pucelle d'Orléans.
Les histoires en musique d'Élodie Fondacci.
Encore une histoire ? Bon, d'accord.
Des livres et des notes avec Fabrice Lucchini.
Beethoven est une magnifique preuve de l'âme.
Tous nos podcasts sont à retrouver sur radioclassique.fr et sur vos plateformes de streaming habituelles.
Cyrus Cérès, gestion de fortune, orchestre votre patrimoine en toute harmonie. Grâce à notre approche en architecture ouverte, votre patrimoine devient une œuvre qui allie sérénité, performance et héritage familial. Ensemble, composons une symphonie patrimoniale qui résonnera aujourd'hui et demain. Cyrus Cérès, la gestion de fortune depuis 1989.
Des frais de santé bien remboursés et pas trop chers, efficaces, la Mutuelle Saint-Martin propose des options adaptées à tous les budgets. Des remboursements sous 48 heures et un suivi en ligne. Elle se charge de résilier votre mutuelle actuelle. Fraternelle, elle répond à vos demandes par téléphone. Une adhésion sans condition d'âge ni examen médical et à partir du troisième enfant, les autres cotisations sont offertes. D'inspiration chrétienne, elle est ouverte à tous. Mutuelle Saint-Martin, efficace et fraternelle depuis 75 ans. Devis au 03 28 76 36 34 ou mutuellesaintmartin.fr.
Découvrez Wagner avant Wagner à Lyon. Sous la direction de Nikolai Schepp-Snyder, l'Orchestre National de Lyon explore le jeune Wagner à travers deux de ses plus belles inspirations, les Hébrides de Mendelssohn et le Mazeppa de Liszt. Un concert rétrospectif avec aussi deux œuvres de jeunesse du compositeur, l'ouverture du Vaisseau fantôme et celle de Tannhauser. Mazeppa, Wagner avant Wagner, les 17 et 19 avril à l'Auditorium de Lyon. À réserver sur auditorium-lyon.com.
En 2025, le Palazzetto Bruzzane rend hommage à Georges Bizet. Découvrez toutes les facettes de l'auteur de Carmen, compositeur français le plus joué au monde. Avec l'Arlésienne et le Docteur Miracle au Théâtre du Châtelet, les danses bohémiennes à la scène musicale ou encore la pétillante Symphonie en ut à l'Auditorium de Radio France. Festival Palazzetto Bruzzane Paris, du 24 mai au 2 juillet. Réservez vos places sur bru-zane.com. D'autres surprises vous y attendent.
Renault. Tous les hybrides ne se valent pas. Renault Full Hybrid E-Tech sans recharge, c'est la technologie Full Hybrid numéro 1 en France. Avec jusqu'à 1100 km d'autonomie sans recharge et sans refaire le plein. Comme par exemple Renault Symbiose Full Hybrid des 320 euros par mois. 2 mois de loyer offert.
En 2024, source 3A Data, selon version et conduite. Symbiose Evolution Full Hybrid 145 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 000 euros. Troisième et quatrième loyer offert si accordiaque. Offre à particulier jusqu'au 30 avril, voir Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Tout de suite, la Minute des épargnants avec l'affaire.
Gérard Beckermann, bonjour. Que pensez-vous du projet de fonds d'investissement pour financer la défense ?
L'affaire est toujours prête pour les grandes causes nationales. C'est l'ADN de l'affaire, prête pour apporter sa contribution au financement d'une paix qui assure notre sécurité en Europe. À cela, il y a deux conditions. La première, c'est que les épargnants sont libres de dire oui ou de dire non. La deuxième, c'est que le ministre, et je le lui ai demandé il y a quelques jours à Bercy, s'engage, car nous ne voulons pas d'épargne forcée. L'affaire restera citoyenne, engagée, oui, à l'effort qui est demandé à tous, et oui, au respect des épargnants, en respectant le statut juridique et fiscal de l'assurance vie.
Merci Gérard Beckermann.
Ensemble, construisons une génération d'avenir. Rejoignez l'Association française d'épargne et de retraite. Rendez-vous sur affaire.fr, affer.fr.
Radio Classique, Christian Morin.
Votre nouveau poltron sofa est plus proche que vous ne le pensez.
Bien sûr, Bruno, c'est la collection Je Mérite. Tant de canapés à 799 euros seulement.
Mais ça se termine demain.
Vous avez plus de 300 magasins pour l'essayer. Avec en plus 30% sur les modèles de la collection, comme en exposition.
Poltron sofa, 30 années de qualité.
Et voilà.
30 ans de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Vous êtes bien. Avec Radio Classique.
Et comme dit Bruno, et voilà, il est 11h. 10h, pardon. C'est Pierre Pilet qui vous donne les dernières infos. Bonjour Pierre.
Bonjour Christian, bonjour à tous. Le président chinois Xi Jinping appelle l'Union européenne à se joindre à Pékin pour résister à la guerre commerciale de Donald Trump. La Chine et l'UE doivent assumer leurs responsabilités internationales, protéger conjointement la mondialisation économique et l'environnement commercial, ajoute Xi Jinping. Propos tenus lors d'une rencontre avec le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez en visite dans la capitale chinoise. Emmanuel Macron, lui, qualifie de pause fragile la baisse temporaire tiers des droits de douane américains à 10%. Message posté par le président de la République sur le réseau social X. Concernant la bourse, une heure après l'ouverture du CAC 40, l'indice est stable et s'établit à 7124 points. L'Iran estime donner une chance à la diplomatie à la veille de pourparlers avec les États-Unis sur le programme nucléaire de Téhéran, discussions qui ont lieu demain dans le Sultanat d'Oman. L'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, sera présent, tout comme le ministre iranien des Affaires étrangères. L'Iran cherche une levée des sanctions américaines sur son économie. Washington soupçonne Téhéran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. 10 morts dans une frappe israélienne cette nuit à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. C'est ce qu'affirme la défense civile palestinienne. Il s'appelle Dan Kane, c'est le nouveau chef d'état-major des armées aux États-Unis. Sa nomination a été confirmée par le Sénat ce matin. Son prédécesseur a été limogé sans explication par Donald Trump. Un nouveau coup d'œil sur la bourse avant de refermer ce point d'information. Et donc le CAC 40 toujours stable. 7124 points ce matin, une heure après l'ouverture, mon cher Christian.
Merci Pierre Pilet, bonne journée et bon week-end.
Merci.
Bonjour, c'est Élodie Fondacci. Que diriez-vous d'une nouvelle histoire pour les vacances ? Annabelle vivait dans un catalogue de jouets. Dans les pages roses, comme toutes les poupées. Grand Jim était aventurier conducteur de tractopelle. Dans les pages bleues, celles pour les garçons.
Découvrez Dinette dans le tractopelle, la nouvelle histoire en musique d'Élodie Fondacci. Un livre de Christos à retrouver aux éditions Talents Haut.
Les coups de cœur à Chantilly accueillent l'incontournable Martha Argerich pour un week-end musical émouvant. Récital musique de chambre, grand concert duo et quatuor, hommage au violoniste Ivry Gitlis, invité exceptionnel, jeune talent. De Haydn à Lily Boulanger, les coups de cœur de Chantilly par Martha Argerich, les 19 et 20 avril. Réservé sur coupdecoeur.org.
Jusqu'à midi, Christian Morin sur Radio Classique.